Alors, ceci est arrivé en 2009, à peu près. Et je voudrais parler de quelque chose qui m'est arrivé pendant que j'étais revenue en Argentine. J'étais arrivée et j'essayais de vivre sans un sou, fauché, sans famille à Buenos Aires. Et j'ai été invitée à donner un workshop, une sorte d'atelier d'écriture et de poésie dans le dessert. Et j'ai dit oui parce que j'étais fauchée et parce que je n'avais rien à faire. La personne qui m'avait invitée, c'était une voix au téléphone, une voix d'homme que je ne comprenais absolument. Je ne pouvais pas faire ça, mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tenter quelque chose par rapport à mon métier. En fait, il s'était trompé, il s'avait appelé une autre personne qui avait mon nom et qui était en effet un écrivain, mais moi, j'étais juste quelqu'un qui était fauché, donc du coup, j'ai décidé d'y aller. La personne au téléphone s'appelait Roberto, et il avait la voix d'un homme, d'un homme accueillant, plus ou moins gros, plus ou moins intéressant. Je ne savais pas comment il était. Et j'ai dû y aller pendant le mois de février. Il faisait très chaud. J'ai pris un bus de nuit et j'essayais de prendre le bus le moins cher possible. C'était un bus qui sortait à 3h du matin de la grosse station de bus où se réunissaient tous les bus de la ville. Et en sortant, je me suis souvenue de ma mère et de nos vacances quand j'étais petite. Je me souvenais de ma mère en train de fumer à 2h du matin, pendant qu'elle organisait le voyage, pendant qu'elle faisait les valises et qu'elle mettait toutes les valises dans le coffre et que le coffre ne fermait pas. Elle rentrait dans la voiture en fumant et mon père rentrait dans la voiture en fumant. Je trouvais que plus personne ne fumait, même en 2009, parce que nous sommes en 2009 dans l'histoire. J'ai pris un taxi à la station de bus. Je suis allée à la station de bus. J'ai pris le bus. Et pendant que le bus avançait vers le nord et vers le dessert, j'ai commencé à avoir l'impression que le paysage avait vraiment changé. Qu'au lieu d'être la nuit, il y avait une sorte de luminescence étrange qui flottait, qui était violette, qui était un peu rougeâtre aussi par moments. Et qu'au lieu d'avoir un paysage plat, le paysage de la Pampa, on commençait à voir le paysage, un paysage tropical, un paysage ou désertique, où les palmiers commençaient à avancer. Et après, j'ai vu que les palmiers étaient tombés. Et j'ai vu pendant qu'on s'avançait, une sorte de terre d'autoroute. J'ai vu un groupe d'économistes qui mangeaient un clou tous ensemble. Et après, le bus continuait, mais je n'arrivais pas à suivre la file de mes pensées, surtout parce que j'ai écouté une sorte d'écho par rapport à moi-même. J'écoutais ma propre voix, mais très distorsionnée dans ma tête et dans mes pensées. Je m'écoutais, quoi. J'écoutais tout ce qui s'est passé. Du coup, je me sentais comme une sorte de miroir de violence de moi-même. Et quand j'étais devant l'air d'autoroute, tous les passagers du bus sont descendus et j'ai vu que les cocotiers étaient tombés, que les cocos étaient tombés des cocotiers, ils s'étaient détachés. Les cocos s'étaient coupés à la moitié et il ne restait qu'un groupe de rats qui s'est balancé dans les cocos. Donc je croyais qu'il restait presque plus rien d'humain dans cette planète. Nous sommes revenus dans le bus. J'ai pas acheté de sandwich, j'ai pas acheté de boisson, je me suis remis. Et le bus a fini par arriver dans le nord. Et dans la station, au terminus, il y avait un homme plutôt large, plutôt barbu, plutôt transpiré. Il s'appelait Roberto, qui venait me chercher. Et il était là, il était écrivain, poète lui-même, et il était professeur d'une école rurale dans laquelle on allait enseigner. Il m'a dit qu'on allait passer par l'hôtel, qu'on allait déposer les affaires et qu'après on irait tous les jours en voiture à l'école. Ils ont pris sa voiture qui fermait pas, le coffre fermait pas, ce qui m'a rappelé ma mère, en train de fumer à 2h du matin, en train de prendre la voiture, d'enfoncer le bagage dans le coffre sans pouvoir le fermer. La porte gauche ne fermait pas non plus. Donc, il a fallu qu'il rentre par la porte du copilote. On s'est passé dans sa petite voiture, il faisait très chaud. Il commençait à éclaircir. Il était 7h du matin. Il m'a dit qu'on n'allait pas passer par l'hôtel finalement, qu'on allait directement prendre le petit déjeuner dans un aire d'autoroute, en sorte de passer dans la route. Et on a avancé. J'ai fait ce que je pouvais pour rester cohérente. J'essayais de parler avec lui sans qu'il sache que je ne connaissais rien à l'écriture ni à l'enseignement de l'écriture. Et pendant qu'il conduisait, il me parlait de la radio. Et il disait, voilà, ça, c'est mon ami. C'est ma meilleure amie. Il parlait d'une célébrité. Je ne savais pas si croire ou pas croire, mais tout me semblait croyable. C'était des mineurs. Et puis les célébrités étaient des êtres humains aussi. Et ils ne sont pas détachés d'avoir des familles. Peut-être que Roberto était un effet. De jamais se percevoir, ou peut-être que c'était juste une projection de son désir, et c'était aussi ok. Ça faisait partie de son monde, de sa littérature, et je ne sais pas comment il écrivait, donc je l'ai laissé parler. La troisième personne qui chantait à la radio aussi était son amie, une amie intime. Mais en même temps, il s'agissait d'un groupe de filles récemment devenues célèbres. On ne savait rien sur elles, quoi. Et elles avaient 18 ans. C'était des anciennes étudiantes, des anciennes étudiantes de poésie de Roberto. Roberto portait une veste en cuir aussi. Il portait une chemise à fleurs qui se collait à sa peau, qui était très transpirée. Il n'arrivait pas à respirer normalement. Ça faisait un bruit, une sorte de sifflement, quand l'air sortait de sa bouche. Et il conduisait. On s'est arrêté en sympa pour prendre un café et un petit déjeuner. On a mangé des œufs, un toast. On a mangé un truc très, très piquant du nord avec des empanadas à 7h du matin. Et ensuite, on a fait ça les 7 jours qui suivaient. Après, on conduisait à l'école rurale où je donnais une classe d'écriture à 3 étudiants qui avaient entre 13 et 24 ans, et qui était un peu en première année du lycée, ils étaient 3, et c'était pour moi très bon, ils étaient meilleurs que moi en tout cas. Et je répétais cette classe tous les jours, et la classe était toujours la même. Je leur apprenais à décrire un paysage. Et pour décrire un paysage, il fallait juste décrire ce que tu vois physiquement. Et tous les jours, que je donnais l'atelier d'écriture, Roberto est venu et il s'est posé devant l'école. Il regardait fixement par la fenêtre. Il me disait qu'il faisait assez proche pour rentrer, pour faire autre chose que d'être. Voilà, en plus, il habitait loin, il fallait qu'il me ramène à l'hôtel après. Donc, il réservait en attendant. Je donnais des cours, je faisais ce que je pouvais. Finalement, j'ai essayé d'apprendre à être le plus passif possible dans la description d'un paysage. Tout le monde a décrit le paysage, tout le monde a décrit ce qu'il voyait par la fenêtre. Et dans tous les cas, c'était le corps de Roberto. Après, je rentre à l'hôtel à 6 heures du soir. Et je regardais par la fenêtre toute la nuit. Je regardais l'heure du dessert, parce que je ne savais pas dormir à l'époque. Et j'étais fauchée, je n'allais pas rentrer. Je regardais les montagnes. Je regardais l'air qui devenait de plus en plus épais. Et après, à 7 heures du matin, je m'endormais un peu. Et à 8 heures du matin, je me réveillais pour aller enseigner parce que Roberto venait me chercher. On a fait ça pendant une semaine. Et après, je suis rentrée. Une autre histoire. Quand j'étais dans son appartement, une femme vient de s'acheter un frigo. Elle sait qu'il faut le laisser vertical pendant 24 heures. Le temps que le frigo perde le gaz ou recharge le gaz, peut chauffer le gaz. Elle a compris qu'il faut faire ça. Donc, elle laisse le gaz vertical, le frigo vertical, et elle attend 24 heures et en rentrant, quand elle va brancher le frigo, elle découvre que derrière le frigo, il y a une petite note où c'est marqué: tu fais ce que tu veux. Alors, par là, elle ne sait pas comment interpréter cette idée, cette notion de faire ce qu'elle veut. Parce que personne sait il a aucune idée comment faire ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, je crois que personne ne sait comment faire ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Personne. Et donc, elle regarde, parce que c'est vraiment une phrase qu'elle ne sait pas qui l'a laissée. C'est vraiment une note qui n'était pas là avant. Et c'est une note qui réfère à son désir. Et sur son désir, elle ne connaît rien, comme la plupart des gens. Qu'est-ce que tu sais? Et alors, elle s'est mise à essayer d'expérimenter ce qu'elle veut. Elle ne comprend pas. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas très bien comment faire. Elle sort dans la rue, je ne sais pas qui lui a laissé cette petite transmission. Je trouve que c'est intéressant de l'utiliser. L'inscription dans son futur. Il n'y a rien en futur. Mais regarde les symptômes sur Internet, les symptômes du cancer, il se rend compte qu'elle pourrait l'avoir. Elle pourrait avoir un cancer de peau, par exemple. Elle n'est pas au courant, elle ne sait pas si elle l'a ou pas, mais comme les symptômes sont suffisamment vagues pour l'avoir, ben, elle se dit que c'est aussi le type de cancer. Il lui reste 2 semaines de vie, possiblement. Et il faut qu'elle les utilise pour vivre sur son métier, faire ce qu'elle veut. Mais c'est pas ce qu'elle veut. Et elle, au début, elle l'a interprété comme une agression, un peu comme quand les parents disent: fais ce que tu veux. C'est-à-dire, fais ton truc. Fais ce que tu veux, je m'en fous. C'est-à-dire, on te lâche la main, là. Donc, je crois que le destin lui lâche la main, quelque part, ce qui est cohérent avec le fait qu'elle est convaincue qu'elle va mourir. Mais dans la progression des choses, elle commence à se rendre compte que ce qu'elle veut, c'est faire des petites choses qui lui ont servi, un service émotionnel. Par exemple, un jour, elle crache dans la rue. Après, elle crache à nouveau. Après, elle crache sur le pied d'une personne. Après, elle va une voiture. Après, elle pisse sur un extincteur de fumée. C'est des actions comme ça qui mènent vers un futur plus solide, quoi, vers une consolidation du film. Et elle fait ça un peu tous les jours, comme guidée par une sorte de transmission qui vient de l'intérieur de sa tête ou de sa bouche, de sa dent même. Et c'est le jour où elle pisse sur un extincteur, elle se rend compte qu'il a très mal à la dent. Il a mal à la dent, qu'il ne sait pas pourquoi. Ça lui fait terriblement mal. Elle ne supporte pas. Elle va attendre quelques heures. Elle met un tissu autour de sa tête. Ce n'est pas où elle ne travaille plus. Elle ne va même pas au bureau. Elle ne répond pas aux appels téléphoniques. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Et faire ce qu'elle veut ne la rend pas forcément heureuse. Ce n'est pas la question du bonheur qui est en jeu. C'est peut-être la question de savoir ce que tu veux. Et alors, il a vraiment mal à la dent, quoi. Elle se réveille, ça lui fait mal, elle ne supporte pas. Et donc, du coup, elle se rend à l'hôpital. Elle va attendre plusieurs heures. Elle passe 5 heures en salle d'attente. Elle regarde un peu les autres gens qui sont aussi en salle d'attente. Et elle passe du temps dans l'hôpital. Elle essaie de faire passer la douleur de son dent. Et elle attend jusqu'à voir tous les fantasmes des autres gens qui sont autour d'elle. Parce que l'hôpital est assez vulnérable, où il y a très peu de frontières entre la vie et la mort, entre le rêve et la réalité, le fantasme. Et le réel, blablabla. Donc, ils sont là en train de montrer une projection dans le mur aussi pour ne pas se fâcher, parce que ça fait 16 heures qu'elle attend en salle d'attente. Le fantasme collectif. Et là, elle voit que le fantasme dit quelque chose sur les gens de l'hôpital, les gens qui sont dans la salle d'attente. Et elle se rend compte que ce n'est pas c'est tout des fantasmes de revanche, des fantasmes de ventes d'objets sur Internet, de poker en ligne. Elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas entourée des patients, qu'elle est entourée du personnel de l'hôpital en grève. Tout le monde est en grève. Ils sont tous des infirmières, des docteurs, des clowns. Du personnel de l'hôpital, de cette poignante, de cette ménagère, de juste tout le personnel de l'hôpital est en grève. Et entre le personnel de l'hôpital, il y a un groupe de clochards aussi qui travaillent à sa manière à l'hôpital. Ils cherchent un travail. C'est des anciens avocats qui cherchent un accident, qui cherchent une manière de devenir, d'avoir un travail, de devenir avocat à nouveau. De défendre la vie de quelqu'un. Et du coup, elle voit que tout l'hôpital est en grève, enfin, que c'est un hôpital en grève. Elle a mal à la dent, une personne va la soigner. Un groupe de delivery boys arrive dans l'hôpital. Ils portent tous un uniforme. Aussi, ils portent un uniforme, les infirmières, les soignantes, les ménagères. Les clowns et les clochards, les venus des avocats. Il regarde un peu après. Il voit que tout le monde est en grève, que les choses sont en train de s'écouler dans l'hôpital public, qu'il a mal à la dent. Il y a un groupe de delivery boys, de pizza domino arrive et ils répartissent des pizzas dans tout l'hôpital. Ils commandent des pizzas. Et sont tous en uniforme. Les infirmières sont toutes en uniforme. Les clowns sont tous en uniforme avec clowns. Les clochards sont tous en uniforme avec clochards. C'est comme ça qu'on identifie les personnes, parce qu'ils portent un uniforme. C'est comme ça qu'on identifie qu'ils sont au travail. C'est à ce moment-là que tous les uniformes se superposent. Et comme un uniforme est un cliché érotique en général, se superposent trois uniformes ou quatre uniformes, cinq uniformes. Grand climat de situation sexuelle incontrôlable. Tous les objets vivent, ils s'enfoncent les uns dans les autres. Comme ça que la femme qui a tellement mal à la dent comprend quelque chose. C'est que dans le rêve, les dents, c'est le sexe. Et c'est comme ça qu'il y a un truc clair pour elle. Et ce qui veut dire le message disruptif qui traverse la dent et aussi la culture du pouvoir. Et donc, elle rentre chez elle.